Chapitre 39. La première chose que fit Quincy pendant sa ronde fut d'identifier et d'inspecter tous les recoins susceptibles d'offrir une couverture. Les Duval possédaient un terrain d'une superficie conséquente, un demi-hectare au bas mot, ce qui n'avait rien de très surprenant dans le secteur. Une belle pelouse au cordeau et bien entretenue aurait été agréable, mais non, ils laissaient l'essentiel de la propriété à l'état sauvage. Bosquets d'arbres par ici, broussailles par là, sans parler du massif de sapins de Douglas à côté du garage, ou de la rangée de rhododendrons exubérants qui occultait l'essentiel du côté gauche de la maison. Autant de cachettes idéales pour un intrus qui attendrait son heure avant de balancer un pruneau. Quincy marchait la crosse du fusil contre l'épaule, canon pointé vers le sol. Dans des conditions comme celle-ci, le meilleur atout de Quincy était son ouïe. À l'écoute des rythmes de la nuit, l'ululement de la chouette, le cri-cri des grillons. Des bruits rassurants quand tout allait bien, mais qui se taisaient d'un seul coup à la moindre perturbation. Il était anormalement essoufflé. Si la température avait baissé, il faisait toujours largement plus de 30 degrés. En conséquence de quoi, son t-shirt était collé à son torse, des gouttes de sueur roulaient sur ses joues, et dans cette atmosphère lourde et humide, chaque respiration exigeait un effort. Il y avait bien longtemps qu'il n'était plus en service actif, mais il se souvenait de ce qu'on lui avait appris. Respirer posément, inspirer lentement par le nez, expirer lentement par la bouche. Cette technique permettait de mieux oxygéner les poumons, de stabiliser le rythme cardiaque, de détendre les muscles. Il se devait d'être prêt, mais pas crispé. Les tensions provoquaient des crampes musculaires et brûlaient de l'énergie sans nécessité, si bien que, lorsque venait enfin le moment d'agir, la sentinelle était trop lessivée pour réagir correctement. Inspirer, expirer, balayer la forêt du regard, l'arrière de la maison, sous la terrasse. Écouter les grillons. Longer le côté des chambres, apercevoir des flashs de lumière par les fenêtres, Cal qui cherchait, puis tourner au coin vers la façade, inspecter les rhododendrons. Répéter la manœuvre, mais en sens inverse. Ou alors longer une fois dans chaque sens la même façade, puis la suivante, et encore la suivante. Varier les parcours, éviter la routine. Si quelqu'un l'épiait, Quincy voulait au moins lui donner du fil à retordre. Il faisait donc en sorte que ses déplacements soient imprévisibles et son corps ramassé sur lui-même. Il venait de s'immobiliser une nouvelle fois au coin du garage, l'endroit précis où le père de Sandra avait été pris en photo, quelques semaines, quelques mois plus tôt. Une question lui traversa l'esprit. Si l'homme se tenait là, devant le garage, qui avait pris cette photo? Manifestement, elle n'avait pas pu être prise depuis la maison. Elle avait dû l'être depuis le jardin clôturé. Peut-être depuis l'endroit où un autre buisson de rhododendron débordait de la barrière. Il venait de faire un nouveau pas lorsqu'un coup de fusil claqua. Il se laissa tomber par terre, sans réfléchir, une réaction instinctive. Il était à découvert au milieu de l'allée, à plusieurs mètres de l'abri le plus proche. Alors il s'était laissé tomber le nez sur l'asphalte lorsqu'un deuxième coup retentit et que la balle ricocha sur le sol à côté de son oreille. Il fallait qu'il se mette en sécurité, tout de suite, qu'il trouve un angle pour riposter. Tout de suite. Qu'il rentre chez lui auprès de sa femme et de sa fille. Tout de suite. Reptation. Le fusil devant lui, il se tortilla sur l'asphalte chaud jusqu'à la rangée de sapins qui jouxtait le garage. Ce n'était pas pour rien si l'armée adorait obliger ses recrues à se promener sur le ventre à longueur de journée. Cela pouvait vraiment être utile. Trois nouvelles balles. Bang, bang, bang. Il tressaillit et baissa la tête, mais se rendit compte au même instant que ses tirs étaient différents. Ils venaient de devant lui, pas de derrière. Des tirs croisés. Deux tireurs qui le pilonnaient. Nouveau tir, une vitre vola en éclats. Il entendit Shelley crier son nom, mais il n'était pas en mesure de répondre. Il avançait centimètre par centimètre, et comme tout son poids reposait sur son torse et ses bras, il était presque incapable de respirer. Enfin, il toucha au but. Le bord de l'asphalte, l'humus. Il roula sur lui-même. Quatre roulés-boulés, et il fut derrière le sapin à bout de souffle. Il aurait voulu que ces arbres soient jeunes et touffus plutôt que des géants tout en jambes, sans branches basses. Il mit enfin la main sur sa radio. « Deux tireurs », indiqua-t-il à bout de souffle. « Ne sortez pas de la maison. Je répète, ne sortez pas. Vous seriez pris entre deux feux. Appelez des renforts. Il nous faut une unité du SWAT. »
« Compris. »
Ensuite, la voix de Shelley ne sortit plus de sa radio, mais il l'entendait comme un murmure à travers la vitre brisée, à une quinzaine de mètres de là. Il se rendit compte qu'il saignait. Du sang coulait sur sa joue. Il avait une tache humide sur l'épaule gauche, une sensation de brûlure dans l'avant-bras droit. Est-ce qu'il avait réellement pris une balle? Est-ce qu'il avait été touché par ricochet? Il n'aurait pas su le dire, et l'heure n'était pas aux inventaires. Les premiers tirs venaient du bout de l'allée. Il en était certain. Quelqu'un s'approchant de la propriété avait découvert Quincy et ouvert le feu. Un voisin ombrageux, convaincu d'avoir surpris un intrus. Il y avait peu de chance. Un voisin l'aurait au moins interpellé, n'aurait pas tiré sans sommation. Et cela n'expliquait pas non plus le deuxième tireur, de l'autre côté. Était-il perché dans un des sapins? Encore une fois, ils étaient maigrelets et dépourvus de branches basses. Pas facile d'y grimper. Un autre point en hauteur dans ce cas. Le regard de Quincy monta vers le toit. Là, à côté de la cheminée. Une ombre qui n'aurait jamais dû s'y trouver. Quincy jura dans sa barbe. Quelle erreur de débutant! Il n'avait jamais regardé en l'air, jamais pensé à ce fichu toit. Et voilà le résultat. Toute son équipe était clouée sur place et lui-même troué comme une passoire. « Abruti !» se dit-il. Mais là encore, l'heure n'était pas à faire la liste de ses bévues. Lentement, il leva son fusil et le cala au creux de son épaule gauche. Le mouvement le fit légèrement grimacer, mais en tout état de cause, la blessure semblait plus superficielle que profonde. Ou alors, c'était l'état de choc et l'adrénaline qui le rendaient insensible. Regardant dans le viseur, il fit le point sur la silhouette. Un homme, aucun doute, avec une carabine. Mais il était pour l'essentiel à l'abri de la cheminée. Un tireur avisé. Il avait soigneusement choisi sa position. Juste à ce moment-là, 6 tirs retentirent coup sur coup, en provenance non pas du toit mais de l'autre côté. Les balles vinrent se loger les unes après les autres dans la façade de la maison, du côté de la cuisine, là où il avait entendu la voix de Shelley. Quincy se retourna pour essayer d'identifier cette menace pendant que derrière lui la silhouette sur le toit ripostait. Bang, bang, bang. Un choc, métallique, sur une voiture plongée dans le noir, comprit Quincy. Garée de l'autre côté de la route, à peine visible. Mais la 3e balle du tireur perché atteignit sa cible et fit voler en éclats le pare-brise. 1 seconde plus tard, le moteur démarrait et la voiture s'éloignait sur les chapeaux de roue. 1 tireur de moins, restait l'autre. Mais lorsque Quincy se retourna, le toit était désert. Il resta à l'abri de la rangée d'arbres qu'il suivit jusqu'à l'arrière de la maison. Ce fut là qu'il le retrouva. Même s'il s'y attendait plus ou moins, Quincy se surprit à agripper son fusil plus fermement, le souffle bloqué dans la gorge. Le garçon se tenait à 3 mètres de lui, sa carabine mollement tenue dans les bras, le visage masqué par l'obscurité. Charla avait raison. Il s'était grimé de telle sorte que seul le blanc des yeux ressortait dans la nuit. C'était une vision fantastique, comme s'il n'était pas tout à fait humain. « Telly Reinach, » dit posément Quincy. « Vous n'avez rien à faire ici, » répondit le garçon d'une voix moins furieuse que catégorique. « Vous devriez être chez vous pour protéger ma sœur. »« La protéger de qui ?»« C'est vous l'expert, à vous de le découvrir. Moi, j'ai d'autres priorités comme celle de sauver ma peau. »« Tu nous as laissé une photo du père de Sandra. Tu voulais qu'on se renseigne sur lui. » »« Ça a fait avancer l'enquête. » Telly avait l'air réellement curieux de le savoir. « Il s'appelle David Michael Martin. Il est à la tête d'une organisation criminelle. Du moins, il l'était jusqu'à sa mort. » Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as rencontré ici. Lentement, le garçon le détrompa d'un signe de tête. Il continuait à scruter les alentours, vigilant. Non, c'est elle. Elle disait qu'elle le ferait pas, qu'elle avait rien à lui dire, mais je me doutais. La famille reste la famille. Même quand on la hait, c'est difficile de s'en détacher. Sandra a fait venir son père? Je les ai entendus parler. Alors je suis sortie discrétos pour prendre cette photo à tout hasard. Que voulait-il? Je sais pas très bien. Il n'arrêtait pas de lui dire qu'il allait mourir. Elle disait « Alors vas-y, fais-le », qu'il n'avait pas besoin de sa permission. Mais il lui demandait pas son pardon. J'ai plutôt eu l'impression qu'il essayait de la prévenir. Quand il serait mort, il pourrait plus la protéger. Mais je savais pas ce que ça voulait dire. Et ensuite? Telly haussa les épaules. Le vieux est mort, comme il l'avait promis. Sandra a reçu un message, elle l'a froissé et jeté. La page était tournée. Sauf que l'histoire s'est pas arrêtée là. Son père avait dit vrai. Telly jeta un nouveau regard autour de lui, scrutant les bois. J'ai reçu des photos. Je les ai trouvées dans mon sac à dos. Des photos de Charla. Mais quelqu'un avait dessiné une cible autour de sa tête. Qu'as-tu fait? Rien, je savais pas très bien ce que ça signifiait, de qui ça venait. J'en étais encore à essayer de démêler tout ça quand, un après-midi, je suis rentrée et il y avait une batte de baseball sur mon lit, toute neuve, avec encore les étiquettes. Et un message, les instructions suivront. Il voulait que tu tues tes parents, sinon il tuerait Charla. J'imagine, mais pourquoi? Comment? Je comprenais rien. La voix de Telly se brisa. Je savais plus quoi faire. Est-ce que tu as remis la batte à Franck ou Sandra? Réponse négative. J'ai plutôt cherché à savoir comment allait Charla. J'avais déjà quelques renseignements, alors un jour j'ai attendu à la bibliothèque et elle est venue. Elle avait l'air heureuse. Vraiment heureuse. Elle avait ce chien, le berger allemand. Et je me suis renseignée sur vous deux, votre femme et vous. D'anciens policiers. Je me suis dit que celui qui laissait ces messages devait bluffer, parce que jamais vous n'auriez laissé quoi que ce soit arriver à Charla. Quincy attendit. « J'ai tout caché, » murmura Telly. Les messages, la batte, je les ai planqués dans le garage. J'ai fait comme si ça n'était jamais arrivé, mais... Ce matin, le relança Quincy, même s'il connaissait déjà la suite. Il voulait l'entendre de la bouche de Telly et continuer à le faire parler. Les forces spéciales devaient être en route. Vu l'état dans lequel se trouvait Quincy, le visage ensanglanté, une tache de plus en plus grande sur le t-shirt, il n'était pas au mieux pour appréhender un suspect armé. Je suis rentrée de mon jogging et je les ai trouvés, dans leur chambre, abattus comme des chiens. Franck, il a même pas eu le temps de quitter son lit. Aucune chance. Franck, qui était capable de résoudre n'importe quel problème, et bon sang, si vous l'aviez vu avec une arme. Et Sandra... Henry m'avait dit qu'elle était encore plus douée que Franck, mais on le saura jamais parce qu'elle non plus, elle n'a pas pu sortir de la chambre. Tous les deux tués à bout portant. Comme ça, lâchement. Tu as pris les armes, la voiture et tu as déguerpi. Il y avait un autre petit mot, toujours sur mon lit. C'est toi l'assassin. Il y avait aussi un téléphone jetable. J'ai reçu le message 5/5. Mes parents d'accueil étaient morts et je devais me laisser accuser. Ça recommençait. Sinon quoi? Il y avait une nouvelle photo de Charla. Sauf que celle-là avait été prise chez elle, devant sa maison. Je savais plus ce qu'il fallait penser et ce qu'il fallait croire. Tu as fui. J'ai attrapé quelques trucs, j'ai fait au mieux. Mes carnets, les photos... Puisque tout le monde allait se lancer à mes trousses, autant vous donner des indices intéressants à trouver. Mais après que j'ai laissé les affaires au campement, le téléphone jetable a sonné. Un type. Il disait qu'il avait une nouvelle mission pour moi. Qu'il était temps qu'on se rencontre. Alors je suis partie vers la station EZ Gaz, mais la voiture est tombée en panne. J'ai dû faire les dernières centaines de mètres à pied. Tu avais déjà été là-bas, dit Quincy, avec Henry. Le garçon secoua la tête, mais en se détournant, refusant de croiser son regard. Je suis arrivée juste à temps pour entendre les coups de feu. J'ai couru. Moi aussi, j'avais une arme à ce moment-là. Je vous jure que j'ai essayé, mais ils étaient déjà morts. Et il y avait un vieux qui attendait à l'extérieur, le pistolet encore à la main. Qui ça? Je sais pas, je l'avais jamais vu. De nouveau, ce regard fuyant. Il l'a pointé droit sur moi, continua Telly. Il m'a dit, « C'est toi l'assassin, souviens-toi. » Puis il me l'a collé dans la main et il est parti. Il t'a donné l'arme qui avait servi à tuer les deux victimes de la station-service. « Il y avait du sang dessus, » murmura Telly. « Celui de la fille, je pense. »« Des projections. C'est pas comme ça que vous dites. » « Du sang sur le pistolet et ensuite sur moi. J'ai essayé de m'essuyer la main, mais ça partait pas, ça partait pas. » « Le vomi, » devina Quincy. Dans la maison, Telly avait agi en pur mode survie. Mais ensuite, à la station-service, en regardant le sang sur ses mains, l'horreur de la situation l'avait finalement rattrapé et il avait vomi. Cela dit, il aurait été encore plus intéressant de savoir ce qu'il avait fait de cette arme compromettante. « Je l'ai plus. » dit Telly comme s'il lisait dans les pensées de Quincy. Le 9 mm, je l'ai balancé dans la nature à la première occasion. Je regarde suffisamment de séries policières. Je savais qu'il me l'avait donné pour me faire porter le chapeau, je suis pas complètement abruti. Il nous faut une description de cet homme. Il faut que tu viennes avec nous et que tu collabores. Telly secouait déjà la tête. Impossible. Vous avez toujours pas compris. Pourquoi est-ce que je suis entrée dans la station? Pourquoi j'ai explosé la caméra de surveillance? Quincy était perplexe. Pour qu'on te voie. Voilà, parce que c'est moi le coupable. Vous pigez toujours pas? Tant que la police est à mes trousses, je remplis ma moitié du contrat et ma petite sœur est en sécurité. Telly, tu n'es pas seulement recherchée par la totalité des policiers de cet état. À l'heure qu'il est, des dizaines d'illuminés et de braves gens se promènent dans la région avec des armes. Le premier qui te coince, elle est la seule famille qui me reste. C'était une raison pour tirer sur les agents lancés à tes trousses? J'étais obligée. Il fallait que je m'échappe, qu'ils continuent à chercher. Je voulais seulement les blesser, vous voyez, en visant les épaules. Est-ce qu'ils vont bien? Ils vont s'en sortir? L'un d'eux est toujours dans un état critique. Le garçon se décomposa. Pour la première fois, Quincy vit le poids du stress et de la peur sur ses épaules. Le garçon essayait de tenir la rampe, mais ce n'était pas pour autant qu'il y arrivait. « Vous savez le comble ?» murmura-t-il. « Je tire même pas très bien. Surtout avec une carabine. Frank avait juste commencé à m'apprendre cette année. Avec un pistolet, je me débrouille à 5 mètres. Mais la carabine, je l'ai jamais vraiment apprivoisée. Vous avez vu combien de balles il m'a fallu ce soir, rien que pour toucher une voiture à l'arrêt ? Mais c'est moi le tireur le plus redouté de tout l'ouest de l'Oregon. J'étais obligé, répéta-t-il d'une voix plus forte, de tirer sur ces agents pour les éloigner. Les autres veulent quelque chose. Sinon, pourquoi tuer Sandra et Frank? Pourquoi l'homme de la station-service? Il cherche quelque chose. Si je le trouve en premier, je pourrais peut-être négocier. Nous mettre à l'abri, Charlie et moi. C'est le dernier espoir qui me reste. Viens avec moi. On te protégera, je t'en donne ma parole. Le garçon leva les yeux, sourit, un éclair blanc dans la nuit. Alors que c'est moi qui viens de vous sauver la vie. Telly, vous pouvez pas m'aider. Mais c'est pas grave, vous savez. Tout ce que j'attends de vous, c'est que vous protégiez ma sœur. Il leva sa carabine. Si je trouve pas ce qui fait courir ces gens, ils s'en prendront à elle. Je le sais. La vie a aucune valeur pour eux. Il y a que ce qu'ils veulent qui compte à leurs yeux et nous sommes des dommages collatéraux. Rugissement de moteur. Quincy les entendit au loin. Les forces spéciales. Il voulut dire quelque chose, promettre à ce garçon que tout se passerait bien, qu'il pouvait lui faire confiance, qu'ensemble ils trouveraient une solution. Mais s'il ne connaissait pas Telly, il connaissait Charla. Et elle non plus n'aurait jamais gobé un tel discours. Alors il dit « Je vais m'occuper de ta sœur. Mais toi, prends soin de toi, parce qu'elle a besoin de son frère. Tu es sa famille et elle a besoin de te revoir. » J'aimais Franck et Sandra, dit d'un seul coup le garçon. Et je ne le leur ai jamais dit. J'ai pas su. Mais dites à ma sœur que je m'étais trouvé une vraie famille. Et que c'était génial. C'est ce qu'on méritait tous les deux. Charles la comprendra, elle sera heureuse pour moi. Grondement de moteur, beaucoup plus proche. Telly sourit une dernière fois. Un sourire triste, mélancolique. Il se retourna, fit un premier pas. Reste! Lança Quincy en essuyant un nouveau filet de sang qui coulait dans son œil. Sinon quoi? Vous allez tirer? Ils connaissaient tous les deux la réponse à cette question. Telly s'enfonça dans l'obscurité. Vacillant sur ses pieds, Quincy n'eut d'autre choix que de le laisser partir.